Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à toi. Tu es bien à l'écoute de Yes, le podcast des warriors qui écrabouille le patriarcat. Je suis Margaïde et aujourd'hui avec moi derrière le micro, il y a Zina.
Hello.
Comment ça va aujourd'hui?
Super, et toi?
Eh ben, parfait. Elsa, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais elle reviendra avec nous dès le prochain épisode.
Oui.
En tout cas, moi, je suis trop contente de te retrouver, Zina, pour cet épisode, parce qu'en fait, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça autour d'un micro.
C'est clair. Kiff absolu, moi aussi, je suis contente.
En plus, ça va être un épisode un petit peu spécial, mais on va tout vous expliquer dans quelques instants. Avant ça, on a quand même quelques petites infos à vous donner. Alors, tu l'as peut-être remarqué, mais on n'a pas publié d'épisode classique depuis un petit bout de temps et on tarde à faire notre vraie rentrée pour cette saison numéro 5 quand même, yes. Voilà. Alors, il y a une raison à ça, on n'a plus de financement, on n'a plus de sous. Alors, on essaye de reconstruire quelque chose avec Marie qui nous accompagne du côté de la production et qu'on embrasse bien bien fort. Voilà, donc aujourd'hui, cet épisode est enregistré dans des conditions un peu spéciales, puisqu'on est dans la chambre de Zina.
Entourée de fringues.
Voilà, ce qui donne la meilleure acoustique de son appartement. Mais voilà, malgré ça, promis, on ne vous abandonne pas, on reste derrière ce micro. Et en plus, on a une très bonne nouvelle, parce que le 25 novembre, à l'occasion de la journée des luttes contre les violences faites aux femmes, on sera en enregistrement live à Marseille, à 19h, à la mairie du 1-7, sur la Canebière. Donc, notez-le bien dans vos agendas. Et voilà, et en attendant de vous retrouver en live, on écoute tous vos messages sur nos réseaux, sur notre WhatsApp. Et d'ailleurs, on a reçu un audio de Matze qui nous a fait grave plaisir. Allez, on l'écoute.
Je voulais vous dire merci parce que franchement, ce podcast, moi, il m'aide beaucoup dans ma vie tous les jours à prendre confiance, à déculpabiliser parce que je fais partie de crew j'ai mal répondu, j'aurais dû dire si j'aurais dû dire ça. Et franchement, tous vos conseils, ils sont vraiment top. Je transfère même parfois des podcasts qui m'ont vraiment plu à des copines à qui je sais que ça fera plaisir.
Ouh,
merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur.
Grave, merci vraiment pour ton message et on est vraiment fiers de toi et fiers de participer à cette communauté. Merci, merci, merci à toi, Matt.
Tellement.
Allez, on passe au sujet du jour, la politique. C'est un sujet qu'on a déjà traité dans l'épisode 9, Warrior en milieu militant. Mais vu ce qui s'est passé ces derniers temps, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on revienne dessus. Alors, je résume si t'as pas suivi. Depuis le printemps dernier, il y a pas mal d'hommes politiques qui ont été mis en cause pour des faits de violence sur des femmes. Alors, il y a eu déjà Damien Abad, ministre du gouvernement Macron, accusé de viol. Ensuite, il y a eu Taha Bouaf, militant militant médiatique de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il a été écarté de la campagne des législatives après un signalement en interne dans son parti. Et puis à la rentrée, encore un cadre de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Sa femme a déposé plainte contre lui pour des faits de violence. Et puis la dernière affaire en date, c'est l'affaire Julien Bayou, qui est visée là aussi par une enquête interne par son parti Europe Écologie Les Verts pour des faits présumés de violence psychologique. Alors, on ne va pas revenir sur toutes ces affaires, mais pour nous, tout ça, c'est vraiment révélateur d'un monde de la politique où le pouvoir masculin écrase tout et où les femmes et les minorités de genre ne sont pas considérées comme des égales. Et tout est fait pour que vraiment, elles ne puissent pas prendre la parole ou prétendre faire campagne quand on est une femme pour un poste de députée, de conseillère départementale ou de sénatrice. C'est vraiment un parcours, mais de warrior puissance 1000, où on, voilà, les moqueries sexistes, voire les agressions, font partie du quotidien. Et on avait envie d'en parler, enfin, en vrai, c'est surtout toi, Dina, qui avait envie d'en parler. Tu as même senti un besoin d'en parler ici à ce micro parce que toi, tu en fais partie, en fait, de ce monde politique depuis très longtemps.
Et oui, totalement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est qu'à la base, je suis une passionnée de politique, mais vraiment. Et depuis mon adolescence, hein, j'étais déjà militante au lycée, mais par la suite, j'ai aussi fait un parcours dans les politiques institutionnelles, hein, puisque j'ai fait des études de droit, Sciences Po, j'ai travaillé dans des cabinets, dans une ambassade, au Parlement européen, plusieurs institutions, bref.
J'ai... La classe, ça sonne vraiment la classe, tout ça, quand
Merci,
même.
Merci, j'avoue, je fais ça en mode humilité absolue, mais j'ai quand même un parcours de warrior dans le sujet. Et du coup, j'avais envie de dire quelques mots sur ma dernière expérience qui a été de loin la plus misogyne.
Ah, dans tout ce que tu as vécu dans le monde politique, c'est...
Celle-là, c'était vraiment la plus gratinée.
Ok, ouais. Allez, je m'accroche à mon siège, c'est parti.
J'avoue, on respire un bon coup parce que je vais vous donner le contexte. J'étais militante dans une grande ville de France et on a gagné au municipal. C'était une victoire assez inespérée puisque la droite était au pouvoir depuis longtemps. Et dans l'enthousiasme et toutes les perspectives que ça représentait, il y a un des adjoints de la nouvelle gouvernance qui m'a proposé de bosser avec lui. Et même si j'avais un projet de reconversion dans les tuyaux, bah, j'ai accepté parce qu'il m'a vraiment vendu du rêve. Il était sur une délégation passionnante, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire ensemble. Je me suis dit trop cool, on a commencé à bosser ensemble. Et en fait, catastrophe, je me retrouve à bosser avec un vrai porc.
Mais vraiment, d'accord, carrément.
L'horreur, vraiment, carrément. Le genre de mec que t'imagines pas exister encore au 21e siècle. Tu vois, le mec qui te regarde droit dans les seins, si tu peux imaginer ce que veut dire cette expression.
Ouais, je vois bien, je vois très bien de quoi tu parles.
Un truc très sympa qui va vraiment décrire l'apparence extérieure de toutes les femmes avec qui il interagit, qui va faire des réflexions sexistes, mais aussi jeunistes, dégueulasses. Ouais. Horrible.
Un mec à jeter à la poubelle, quoi.
À jeter à la poubelle. Vraiment, ce genre de mec, on n'en veut pas à ces postes-là, mais malheureusement, ils existent et ils sont comme ça. Ce gars-là dit des réflexions dans l'impunité la plus absolue tout le temps. Pour vous donner un exemple, il est vraiment capable de commenter la poitrine ou le fessier de quelqu'un. Il est capable de dire des trucs assez avilissants. Et j'avais beau tout essayer, les punchlines, les réponses, je me suis retrouvée dans un contexte où, en fait, red flag maximum. En plus, le type est hyper possessif, il m'appelle à des heures pas possibles. Et du coup, je me dis non. Cette expérience-là, je ne vais pas la prolonger. Idéologiquement, ce n'est pas OK pour moi. Je vais m'arrêter là. Ce n'est pas possible. On va l'appeler Jean-Michel pour les besoins de l'histoire.
Jean-Michmich.
Donc Jean-Michmich, je suis obligée, parce qu'on en est là en 2020, hein, de manager son ego en utilisant la négociation autour de ma rémunération pour partir, pour essayer de trouver un argument. Quoi.
Genre, non, mais tu peux pas, je suis trop chère pour toi.
Ouais, un truc dans le goût que, manifestement, il a pris très très mal, puisque vexation maximale de Jean-Michmich, qui m'appelle, qui me laisse des messages, qui me dit qu'il a passé une semaine sans dormir, qu'il est extrêmement vexé, qu'il se sent trahi, que je ne donne pas suite à sa proposition de poste.
Mais trop fragile, en fait.
Non, mais la toxicité absolue. Là, donc, je me sens physiquement soulagée de me barrer de cette expérience et alignement des planètes, puisque le même groupe politique me propose, quelques semaines après, un autre poste encore plus intéressant, et cette fois pour une nana.
Ah, bah ouais. Parfait.
Ouais.
Tout se passe bien.
On kiffe, c'est trop bien. Sauf que là, je candidate et je passe les entretiens, tout se passe bien, j'ai un CV long comme le bras, j'ai une grosse expérience sur le territoire, je suis recrutée, il n'y a aucun problème, sauf qu'en fait, j'ai un autre élu, donc on va l'appeler Jean-Claude pour les besoins de l'histoire, qui lance une véritable cabale contre moi. mais vraiment. Il appelle tous les élus de mon groupe pour casser du sucre sur mon dos, il organise une réunion pour faire annuler mon recrutement, il reproche à la femme qui m'a recrutée que mon CV n'est pas assez bien, alors qu'en fait, les autres hommes de la même majorité qui se sont retrouvés à former des équipes n'ont pas à répondre de la constitution de leurs équipes. Donc on est vraiment sur un cas de misogynie classique.
Parce qu'il t'a pas expliqué pourquoi, il t'a pas donné de raison objective
Pas du tout. Vraiment, à ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve littéralement harcelée. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais travaillé avec lui. J'essaye de le confronter. Je me dis, il y a un souci, ce n'est pas possible. Je l'appelle, il me raccroche au nez. J'essaye de lui parler, il me ghost. Ça ne marche pas. Et en fait, je vais découvrir après que Jean-Claude est un pote de Jean-Michmich. Et qu'en fait, il a fait ça pour lui rendre service. Et là, c'est vraiment double win parce que Jean-Michmich se venge de moi, et Jean-Claude arrive à placer un de ses potes à ma place. Évidemment, je vous la fais courte, un homme blanc, hétéro et cisgenre.
Eh oui, forcément.
Pas de
no suspense.
J'ai tout essayé, j'ai remonté ces faits à ma hiérarchie, j'ai essayé de me chercher des alliés, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui sont des élus dans le groupe. L'ambiance, pour vous la décrire en quelques mots, c'est juste, bah écoute, ma cocotte, la politique, c'est comme ça, faut se cuirasser un peu, c'est normal. Sauf que ce n'est jamais normal de subir de la maltraitance, c'est pas du tout ok, et je décide d'y mettre fin en posant un acte politique, puisque j'écris un mail où, que j'adresse à tous les élus de mon groupe, où j'explique mon point de vue, en quoi c'est problématique, pas simplement la misogynie dont je me retrouve la victime, mais aussi toutes ces pratiques poussiéreuses qui étaient littéralement et idéologiquement pas les raisons pour lesquelles je m'étais engagée dans ce poste, quoi. Petite ambiance, on se lève et on se casse.
Allez, voilà, c'est ça. Enfin, toi, plus précisément, t'envoies un mail et tu te casses.
Exactement. Ça fait du bien, ça permet de dire les choses. Et si j'ai un sentiment de victoire aujourd'hui sur cette histoire, c'est précisément parce qu'on est dans un contexte où la parole se libère.
C'est ça, il y a eu énormément de prises de parole, notamment sur les réseaux sociaux, suite à ce qui s'est passé à la rentrée à Europe Écologie Les Verts et à la France Insoumise.
Tout à fait. Donc on se rend compte que partout, y compris à gauche, il y a des faits de violence sexiste et sexuelle, qu'il y a de la misogynie, il y a de la discrimination, des mauvais traitements. Je pense que c'est important d'en parler et d'autant plus dans le cas de mon expérience que Jean-Michmich et Jean-Claude sont toujours au pouvoir aujourd'hui, dans une grande ville de France. Ils ont des collaboratrices. Ils ont des élus femmes et minorisées à plusieurs titres avec qui ils travaillent. Ils ont des femmes dans leur service. Et je crois assez important de profiter de cet épisode de Yes pour leur passer le message que l'impunité n'est pas éternelle.
On vous voit, Jean-Claude et Jean-Michmich.
On vous voit, on vous entend, tout le monde est au courant. Et la solidarité, la delphité, c'est hyper important parce que ce sont des milieux où la non-mixité fait peur, où on se retrouve à être les victimes d'un boys club qui est dans la toute-puissance, dans l'illusion de la compétence, dans l'impunité absolue. Et en fait, de voir ces affaires éclater, bah, ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien au cœur et j'aimerais dire à toutes les femmes et les personnes minorisées, que ce soit de par leur genre, leur orientation ou leur couleur de peau, qui n'ont pas osé se solidariser avec moi à l'époque, ou même celles qui se reconnaissent dans cette histoire et qui sont dans d'autres villes ou d'autres échelons territoriaux, que c'est hyper important de se parler, d'être solidaire, ça leur fait peur et ça nous aide. Et franchement, on participe tous ensemble à un renversement de la table.
Grave. Non mais t'as grave raison, et puis même au-delà des violences et du fait que du coup il laisse pas la place aux femmes de s'engager en politique, il y a aussi la question démocratique. C'est aussi la question de à qui on laisse le pouvoir, c'est-à-dire qu'on laisse le pouvoir quand même à des mecs qui sont violents, qui harcèlent, qui abusent en fait de ce pouvoir, et c'est eux qui derrière vont faire les lois et vont faire la politique. Donc est-ce que c'est vraiment ces gens-là qu'on a envie de faire, à qui on a envie de faire confiance dans la vie, voilà, pour gérer nos vies en fait.
Ben oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est une question idéologique parce que il y a un besoin urgent de changer les règles d'exercice de la politique. Que c'est pas juste ces mecs-là qui sont dans l'impunité, c'est aussi le fait que effectivement c'est très descendant, très viriliste, très on occupe l'espace et du coup, enfin moi dans mon dernier poste, ce qui m'a choquée, c'est que j'étais pas du tout sur les sujets, j'étais vraiment sur on essaye de régler des crises diplomatiques en interne, on essaye de caresser les égos des uns et des autres. C'est vraiment tout ce truc de la longueur de ma quéquette, en fait.
C'est ça, t'as plus de temps à gérer les crises causées par ces mecs plutôt que de parler du fond, des projets, de tout ce que tu as envie de
faire,
en fait, pour changer les choses, en fait.
Ben exactement. Et cet été, j'ai participé à des universités d'été et je me suis retrouvée à discuter avec beaucoup de femmes qui avaient eu des expériences similaires. Et on se rendait compte qu'on arrivait toujours avec la même chose. Tu sais, le syndrome de l'impostrice, on a toujours peur de notre légitimité, on a une hyper-exigence sur notre CV, sur nos compétences, on arrive avec des envies de mettre des choses en place et on se retrouve empêché par ce type d'obstacle, par juste des mecs qui se sentent blessés dans leur virilité, qui sont en train de nous asphyxier avec leur masculinité toxique, quoi.
Et avec tout ça, là, tout ce que tu nous racontes, t'es pas un peu dégoûtée quand même ? T'as pas envie de tout lâcher ?
Eh bien, la question est logique et figure-toi que non, même pas. C'est ça le pire, c'est que ce sont des expériences qui m'ont donné encore plus envie de m'investir en politique. Aujourd'hui, je suis plus militante que jamais. Avec des copaines, on a cofondé un mouvement politique. J'ai fait la dernière campagne des législatives. Je continue de soutenir des candidates et des candidats qui sont alignés sur mes valeurs idéologiques. Et je pense qu'il y a un mouvement féministe qui est en train de se réveiller avec le MeToo politique et que c'est plus que jamais le moment de participer à tout ça.
Et voilà, maintenant que le cadre pas très très glamour a été posé, on va voir concrètement ce que c'est le quotidien d'une femme en politique. Alors si vous nous suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer sur notre compte des stories avec des situations vécues. Mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que c'est des trucs que Zina a vécu pour de vrai.
Je témoigne en direct live.
Donc on a vraiment dû faire le tri parce que en fait Zina, t'avais tellement d'histoires à raconter.
Ah non, mais j'arrivais plus à m'arrêter. On avait un document partagé, je commençais à faire une liste et je n'arrivais plus à m'arrêter de taper, c'était hallucinant.
Voilà. Donc quand même, pour pas faire un épisode qui allait durer 3 heures, on a choisi 4 anecdotes qui nous ont paru intéressantes et on vous a proposé sur Instagram de participer à un tribunal misandre, donc d'imaginer des condamnations pour toutes ces raclures de bidets que Zina a rencontrées sur sa route. Alors déjà, merci pour vos réponses qui nous ont fait hurler.
Mais tellement, on vous aime, on vous adore. Toute cette créativité, c'était fou.
C'est clair. Et on commence avec ta première anecdote, Zina. Alors, que t'est-il arrivé ? C'est tellement...
Ah ouais. Alors attendez-vous à avoir un petit peu froid dans le dos, mais un matin, je me pointe au travail et sur mon bureau, je retrouve un cadeau très bien emballé. Et ce n'était autre qu'un carré Hermès. Alors, je précise qu'un carré Hermès, c'est un foulard en soie très, 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 très cher.
Ouais, c'est minimum 200 balles et les prix vont jusqu'à 500. Donc, voilà.
Donc, on parle souvent de la façon très lourde dont les hommes nous draguent dans la rue, mais on ne parle pas de la façon très lourde dont les hommes riches nous draguent.
Et du coup, tu sais qui t'a offert ce cadeau-là ?
Ben, un député.
Waouh !
Ouais.
Mais pourquoi ? Enfin, c'est dans quel contexte ?
Ben, en fait, on travaillait pas vraiment ensemble, il faisait partie de mon groupe. Et un soir, peut-être la veille ou l'avant-veille, il y avait eu une célébration par rapport à un événement politique. Et on s'était retrouvés à discuter, mais discussion de collègues assez cordiale. Et j'étais habillée tout en violet. Et en fait, il m'a glissé que cette couleur m'allait très bien. Et je lui ai répondu que c'était ma couleur préférée. Enfin voilà, small talk à la con. Le surlendemain, je me retrouve avec un carré Hermès violet sur mon bureau.
Waouh !
Ouais.
Mais c'était quelqu'un, enfin, t'avais pas particulièrement de relation avec lui en plus.
Je n'avais pas particulièrement, non, pas du tout. Pas du tout.
Waouh, c'est vraiment bizarre, surtout que tu te dis pourquoi il m'offre ça en fait ? Qu'est-ce qu'il attend en échange ?
C'est une sensation assez dégueulasse parce que tu sens que si tu l'acceptes, t'es enfermée dans un truc, mais si tu le refuses, tu risques quelque chose. Donc en fait, t'es toujours sur le fil quand t'es collaboratrice vis-à-vis des hommes qui te sont supérieurs hiérarchiquement en plus.
Donc comment t'as fait pour te dépêtrer de cette situation ?
J'ai pris ma respiration, je m'étais un peu renseignée, je savais qu'il était en réunion, hein. Je vais pas me faire passer pour une courageuse, j'ai attendu un moment où il était pas là.
T'es une courageuse,
ouais,
Zina.
J'ai pris ma respiration et j'ai pris le cadeau et je l'ai emmené dans son bureau et je l'ai confié à sa secrétaire en disant qu'il s'était probablement trompé. La destinatrice.
Comment on peut se tromper ? Mais bon, bref. Okay.
Oui, bah, tu sais, les égos, tout ça. J'ai essayé de ménager le truc en lui offrant une sortie de secours et il l'a prise puisqu'il est sorti de son bureau. Il a récupéré le truc en disant, en effet, c'était une erreur, c'était pour ma femme.
Ah bah oui, parce que sa femme bossait dans ton bureau, non, évidemment.
Eh ben bien sûr, c'est la poste qui s'est trompée.
Aïe, aïe, aïe. Du coup, voilà, on a proposé, qu'est-ce qu'on lui fait à ce député pour ce cadeau chelou et malaisant ?
Ben franchement, c'est là que le tribunal misandre a été particulièrement créatif parce qu'on a deux sortes de sentences. On a les sentences physiques, donc lui proposer de bouffer le carré Hermès.
Bon appétit.
Mais oui, se l'enfoncer dans les trous de nez. Ou alors, encore plus marrant, laver les chiottes des écoles avec.
Eh oui, pas mal, pas mal. Du coup, ça va bien briller, là, je pense.
Ah ben, de la soie de cette qualité, tu peux être sûre. Aller bosser dans une usine au Bangladesh pour fabriquer de la fast fashion, parce que oui.
Vas-y, expose-toi bien à tous les produits toxiques et,
ouais,
et les cadences de folie.
Auxquelles s'exposent les petits-enfants moins blancs et moins riches que toi. Et puis après, il y a aussi eu des sentences civiles.
Ah, sympa.
Ouais, genre offrir un carré Hermès à tout son entourage professionnel, toujours confondu.
Ah bah au moins, comme ça, il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise.
Exactement, exactement. Ah, j'ai bien aimé aussi s'en faire un slip et venir au boulot avec.
Sans pantalon, évidemment.
Évidemment.
Allez, on va parler maintenant d'un élu qui n'a pas de limite. Et ça commence par un thé charmante lancé comme ça, entre deux trucs.
Oui, le fameux thé charmante qu'on a l'habitude d'entendre dans la rue par des mecs un peu random qui essayent de nous draguer. Eh bien, figurez-vous que c'est aussi possible de l'entendre dans l'espace politique. Et un jour, j'étais en train de faire une réunion avec un adjoint et il m'a coupé la parole au milieu d'un sujet politique pour me dire que vraiment, vraiment, j'étais charmante. Il éprouvait le besoin de me le dire. C'est fou, mademoiselle, vous êtes vraiment charmante. Ouais. Je vous laisse imaginer la sensation que j'ai pu avoir.
Bah, c'est horrible en plus, parce que dans le milieu professionnel, ça te déstabilise complètement.
Bah, tu ne sais jamais comment répondre, en fait.
Exactement. Donc, tu te sens mal et forcément, tu te...
Dégueulasse. Ouais. Bah, c'est un jeu auquel tu perds quoi qu'il arrive. Hein. C'est ça qu'il faut savoir.
Soit tu es énervé, soit tu te laisses faire et quand même, elle aurait pu répondre.
Ouais, mais
la féministe de service.
Exactement. Mais même ça, c'est hyper intéressant, l'expression que tu viens d'utiliser, Marga. Tu te laisses faire, qui est une expression qu'on a toutes et tous l'habitude d'utiliser, mais qui témoigne d'un certain victim blaming dans la culture populaire. Parce que c'est pas moi qui me laisse faire, c'est lui qui fait. Et moi, je suis sidérée. Mais tu vois, c'est important de remettre le verbe actif sur l'agresseur, parce qu'on peut parler d'agression même à ce niveau-là. Donc, il m'agresse, puisqu'il se retrouve à me faire des compliments sur mon apparence extérieure à un moment.
En te coupant la parole à un moment où tu es quand même en situation professionnelle.
Donc, man-interrupting aussi. Donc, le man-interrupting, hein, l'interruption de la parole par des hommes. Donc vraiment, le tableau est complet, mais il faut vous imaginer que le surlendemain, un samedi après-midi, je reçois un petit MMS.
Je crains le pire.
Ouais, tu peux craindre le pire, parce que le mec s'est pris, il avait récupéré mon adresse et il s'est pris en selfie en bas de chez moi.
C'est-à-dire qu'il était en bas de chez toi
samedi
après-midi.
Ouais.
Il s'est pris en photo, il te l'envoie.
Il s'est pris en photo. Alors franchement, si c'était pas moi la destinatrice de la photo, je prendrais ce type comme une source d'inspiration. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sait pas prendre les selfies, qu'il le prend de bas, ça l'avantage pas du tout. Et qu'il s'offre le luxe de ne pas du tout correspondre aux standards de beauté. Ce qui, moi, qui suis vachement militante sur le sujet de la grossophobie et tout, je me dis, mais c'est génial. Le mec ne correspond à aucun standard et il envoie une photo de lui en mode Casanova, quoi.
C'est ça, il n'a pas honte. Enfin, en tout cas, il n'a pas cette réserve que nous, on peut avoir en tant que femme à se dire « Oh là là, mon Dieu, comment je vais me prendre, sous quel profil, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas ceci. »
Mais on complexe de ouf pour un poil, une ride, un kilo sur la hanche. Le mec ne correspond à aucun des standards de beauté et il se prend en photo en mode Casanova, elle va tomber, elle va descendre de chez elle pour boire un verre avec moi. Enfin,
mais comment c'est possible?
Mais moi, j'aimerais avoir un tel aplomb.
Tête.
Mais franchement, il faut nous donner la recette pour se sentir aussi bien dans vos peaux, quoi.
Grave, mais...
Ben, on a mis le tribunal Misandre à l'œuvre, hein, évidemment.
Ah bah évidemment, là, il y a de quoi.
J'ai partagé l'anecdote. Et qu'est-ce que le tribunal Misandre nous a répondu, Marga?
Alors, on nous propose de l'obliger à avoir ce selfie certainement très embarrassant comme photo de profil LinkedIn pendant 10 ans.
Mais génial. Tellement génial. Surtout que je confirme, la photo est horrible.
Tu me la montreras en privé?
Ah mais promis.
Et on nous a proposé aussi de leaker, c'est-à-dire faire fuiter sa propre adresse à des personnes en besoin de logement.
Ah, bah oui, c'est génial.
Puisqu'il est un pro pour trouver les adresses des autres, il n'a qu'à donner la sienne en disant hébergement gratuit.
Bah, surtout à l'heure où le mal logement, c'est un vrai sujet, et je le dis sans ironie, donc bravo pour cette réponse.
Ok, alors tu as aussi le cas du connard qui te prend mais grave de haut.
Ouais, alors ça, c'est absolument magique. Donc, un élu pour lequel je travaille, bah, je précise, parce que je l'ai déjà évoqué au début de l'épisode, c'est toujours Jean-Michel. Hein.
Ah, Jean-Michel.
Il nous avait manqué.
Jean-Michel.
Qui, alors que je suis en train de travailler et taper sur l'ordinateur, me sort « Si tu avais eu les couilles de te présenter, tu ne serais pas en train de m'écrire mes mails. »
Ah, mais hein ?
Ouais, il n'y a rien qui va. C'est humiliant, tentative de me rabaisser. Alors clairement, c'est vraiment un espèce de truc d'ego pour essayer de te rappeler que tu es en dessous de lui. Enfin, truc dégueulasse.
Parce que toi, ton taf, c'était pas d'écrire ses mails. T'étais pas secrétaire.
Mais pas du tout. Pas du tout. J'étais là justement pour l'aider à mettre sa politique en place. Et il s'avère que, bien sûr, quand t'es collaboratrice, tu te retrouves à écrire certains textes. Mais de là à réduire mon boulot à m'écrire des mails, c'est vraiment super réducteur.
Et puis en plus, déjà, à quel moment il y a besoin de couilles pour se présenter à des élections?
Mais c'est ça qui est symptomatique, tu vois. C'est que, et je me rappelle qu'il m'avait même sorti ça une fois, qu'il m'avait dit que les gens se sentiraient jamais menacés par moi politiquement parce que j'étais une femme.
Ok.
Ouais. On est sur une lecture assez misogyne de l'entrée dans la vie politique, donc il faut des couilles pour se présenter. Ouais, c'est magique.
Et ben du coup, on a demandé à nos warriors sur Instagram, quelle sentence pour Monsieur Mécouille.
Ouais, alors ce qui est génial, c'est qu'il y a eu des propositions de punchline de nos auditeurices. Et vraiment, les warriors, vous êtes géniales. Je vais en donner quelques-unes parce qu'elles valent le coup d'être entendues. Alors, t'as pensé à utiliser ton cerveau plutôt que tes couilles pour réussir? Putain, j'aurais tellement aimé la dire, celle-là.
Pas mal.
De quel mail tu parles? Celui pour le ou la RH pour dénoncer les faits de sexisme et de classisme? Je suis même pas sûre qu'ils comprennent les termes.
Pas sûre qu'ils comprennent les termes, mais peut-être qu'ils disent la RH, quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas me dénoncer de quoi?
Oui, alors c'est vrai que quand on voit à quel point l'impunité règne, rire un peu jaune, mais bon. Il y en a une autre que je trouve très très bien, c'est si j'avais eu des couilles, j'aurais pas eu besoin de CV. Et ça, je rebondis là-dessus, j'aime beaucoup cette réponse parce qu'effectivement, il y a une exigence beaucoup plus forte envers les femmes. Moi, je l'ai vécu, ce truc. J'ai été recrutée par une femme et on a exigé les CV de tous ses collaborateurs et collaboratrices. Là où, quand les hommes constituent des équipes, c'est tranquillou bilou. On invite les copains, c'est le café du commerce, quoi.
Et on a aussi quand même eu, voilà, après ces petites répliques pas mal, vraiment pas mal. Bravo à toutes et à tous. Une proposition de sentence. On s'est dit voilà que ce serait pas mal de le priver de secrétaire pendant tout le reste du mandat.
Oh, ça t'apprendra tellement
à écrire des mails. Ça t'apprendra à écrire des mails.
Ah ouais, c'est génial. Ben, surtout que, quand on sait à quel point le truc de la secrétaire politique, c'est hyper sexiste. Parce que c'est des métiers pour lesquels on n'imagine même pas que ce soit quelqu'un d'autre qu'une femme.
C'est ça. Et enfin, pour terminer, alors, tu as connu le gars... un gars, parce que j'imagine que c'est pas le seul à agir comme ça.
Ah, on a quelques champions.
Un gars qui vient à peine d'être élu et qui vraiment se prend pour Barack Obama, quoi.
Ah non, mais ça, c'est génial. Le mec est élu depuis quelques jours, donc c'est le tout début de son mandat. Et il commence déjà à gonfler le torse et à dire devant tout le monde est jaloux de moi, je sens bien que les nouveaux membres du cabinet ils sont mal à l'aise en ma présence parce que je représente une menace. Il part dans une rhétorique... Ah ouais, non, mais flippant, quoi. C'est tellement gênant. Ce que ça illustre, c'est déjà ce fameux truc de l'illusion de la compétence. Parce qu'en fait, le mec n'avait pas encore bossé et il estimait qu'il constituait déjà une menace. Mais mec, qu'est-ce que t'as fait?
Mais une menace pour qui? Pourquoi?
Mais
enfin,
non,
genre,
mais...
c'est quoi? C'est un combat de coq, en fait?
C'est ça. Ah, toujours le concours de quéquette. C'est vraiment ce truc de j'ai besoin de me rassurer en me disant que les autres sont jaloux. Donc, hyper safe. On est vraiment sur la faille narcissique abyssale. Je suis important, les gens sont jaloux, nanana. Mais putain, un poste déjà, en fait.
On a soumis cette petite anecdote à notre tribunal Mésandre. Et bon, la majorité des réponses du tribunal l'invitait juste... à fermer
sa gueule.
Voilà, un gros baillon juste pour ne plus jamais l'entendre. Mais on a aussi quelques réponses plus graphiques, Zina.
Oui, alors le foutre à poil dans le goudron sur la place publique, et franchement, merci à la personne qui a écrit ça parce que ça m'a fait du bien. Ou lui dégonfler ses chevilles à coups d'aiguille. Mais putain, je vous aime trop.
Franchement, ouais. Merci, hein. Ça fait vraiment du bien de rire de ces situations. Et on avait quand même une dernière question, c'est qu'est-ce qu'on en fait des hommes politiques? Parce que vu le niveau, franchement, et on parle là pareil, on a reçu plein de réponses sur Insta. Donc Zina sort son téléphone pour vous les partager.
Absolument. Donc ce qu'on fait des hommes politiques, ben déjà du feu, hein, on brûle tous ces tocards, maintenant ça suffit. Et je comprends le ras-le-bol de la personne qui a écrit ça. On les fait pédaler pour générer de l'électricité.
Bah au moins ils seraient utiles.
Ah ben à l'heure de la transition, c'est parfait. Un truc utile, genre du chauffage pour l'hiver.
Voilà.
On en fait du caca, je comprends aussi.
D'accord.
Du houmous, c'est vegan et bon pour la planète, puis ça nous changera.
Et puis c'est vrai.
Il y a aussi quelqu'une qui proposait d'en faire un paillasson.
Ma foi.
Bah.
Des hommes politiques en paillasson, mais oui, grave, je prends, j'achète.
Des tapis d'entrée dans un immeuble.
Ah bah oui.
Je pense que ça pourrait être sympa de s'essuyer les pieds. Ouais, toujours aussi graphique.
À retrouver bientôt dans la boutique Sophie Ferjani.
Oui, c'est vrai, ce sera design d'avoir un homme politique en tant que paillasson.
Et ensuite, de la bonne choucroute. C'est un peu écœurant, mais ça passe. Ok, pourquoi pas la choucroute si ça t'inspire.
Ok, non mais vous êtes vraiment trop drôle.
C'est génial.
Alors, il y a une autre solution, c'est Mathilde Viau qui propose d'en faire...
du compost.
Du compost, et c'est une super idée.
Mais génial. En fait, je vous recommande ce livre qui s'appelle littéralement comme ça, L'homme politique, moi j'en fais du compost, qui a été écrit par Mathilde Viau, qui est la cofondatrice d'un collectif qui s'appelle Chères collaboratrices, et qui était elle-même ancienne collaboratrice à l'Assemblée nationale, et qui explique tous ces mécanismes que j'ai plus ou moins évoqués dans mon témoignage, mais qui se retrouvent de façon systémique partout dans toutes les expériences de femmes et de personnes minorisées dans ces espaces politiques. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est « bon, on ne peut pas forcément tous les mettre à la poubelle, par contre, on peut les recycler, on peut changer les règles du jeu ». Mais oui, vraiment. Et je pense qu'elle a raison, toute cette toxicité masculine ne fait de bien à personne, y compris à eux-mêmes, parce qu'on a donné des exemples aujourd'hui, il y a des égos surdimensionnés, et je pense vraiment que ces personnes-là, et je le dis avec la compassion de la militante, ferait mieux de consulter. Mais du coup, si on essaye d'imaginer un monde où il n'y a pas cette illusion de la compétence, avec des élus qui ne font qu'occuper l'espace au lieu d'être dans le concret, qu'on met fin au principe de sacrifier la diversité en première ligne en mettant les femmes ou les personnes racisées à des endroits où ils et elles vont se faire défoncer. Donc ça, c'est un concept qui s'appelle la falaise de verre. Par exemple, on va envoyer sur une circo dite non gagnable une femme pour s'en prendre plein la gueule, ou Myriam El Khomri au moment où il y a besoin de faire des réformes assez impopulaire sur un secteur. Enfin, c'est un grand classique de foutre une femme devant pour qu'elle s'en prenne plein la gueule.
Et des fois, ça rate. Hashtag Richard Ferrand, notamment le pont de la Macronie contre qui la NUP a envoyé une jeune femme enceinte et qui, en fait, s'est fait tataner. Donc, des fois, ça marche pas à chaque fois.
Oui, alors vraiment, ce genre de contre-exemple, ça fait du bien au cœur.
Et donc, tout ça, c'est une lecture que tu recommandes, même si on ne fait pas de la politique, quoi.
Ah ouais, complètement. Parce que je pense qu'on y comprend des mécanismes qui alimentent la politique, et ça nous permet d'avoir une certaine lecture des décisions qui sont prises à cette lumière-là. Mais aussi, ce sont des mécanismes qui alimentent beaucoup de secteurs, même du domaine privé, en fait. Enfin, ce truc d'envoyer une femme à la tête d'un service où ça se passe hyper mal, c'est un classique, ça se fait. La falaise de verre, je pense que ça n'existe pas qu'en politique.
Exactement, non, carrément. Bon, du coup, j'espère que cet épisode t'a fait du bien, Zina. Ça t'a permis un peu de remettre du positif sur tes expériences quand même plutôt négatives en politique.
Alors, oui, ça m'a fait un bien fou. Par ailleurs, toutes mes expériences ne sont pas négatives parce que je vois quand même des choses changer. Je vois qu'il y a des mentalités qui changent sur certains sujets, c'est juste que ça met un temps fou. Mais effectivement, ça fait du bien de s'imaginer un monde où on peut recycler, où on peut faire du compost de toutes ces règles verticales, pyramidales, descendantes, virilistes. On peut s'imaginer un espace politique qui soit moins descendant, qui soit mieux veillant, plus représentatif, plus diversifié. Enfin bref, on peut s'imaginer de créer notre propre jeu plutôt que de subir les règles de leur jeu à eux. Et donc notre propre jeu, pas celui du jeu J-E, mais bien celui du nous, car nous sommes nombreux et nombreuses à y croire et à se dire que ça urge de changer les choses et que cette toxicité masculine nous étouffe.
Waouh! J'ai envie de dire Zina présidente, mais j'imagine...
J'étais inspirée de ouf!
Mais j'imagine que ouais, dans ton modèle, il y aura peut-être plus de présidente, une personne toute puissante au sommet et des citoyens en bas. J'imagine que ça sera
exactement.
Beaucoup plus...
Voilà. L'idée, ce serait qu'on arrête l'hyper-incarnation, qu'on arrête de faire des trucs autour des personnalités et qu'on représente des idées et des mouvements, tout à fait.
Super, ouais, je signe!
Merci!
Merci Zina, et vraiment bravo pour ton engagement.
Merci à toi.
C'est déjà la fin de cet épisode, alors merci à toi qui nous écoutes là, sous tes écouteurs. On espère que notre discussion t'a donné la patate pour repartir au combat. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et à nous laisser un commentaire. Si tu as une histoire de warrior à raconter, tu peux nous envoyer un vocal WhatsApp au 07 45 65 56 75. Je répète, 07 45 65 56 75 ou tout simplement sur Insta @yespodcastyes avec
3S. Dans le prochain épisode, on parlera de jeux vidéo. Tu es gameuse, gamereuse, tu as trouvé des jeux ou des pratiques pour concilier ta passion et le féminisme. Tu as des recommandations de jeux LGBTQIA+ friendly. Tu as écrit un scénario inclusif peut-être, ou alors tu es fière de ton avatar Sims. Donne-nous envie de découvrir ton univers. Raconte-nous pourquoi les jeux vidéo, ça peut être cool et féministe.
Ouh !
Et n'oublie pas, d'ici là, protège-toi des méchants coqs. La communauté des warriors arrive pour les plumer et les tremper dans le goudron. On est avec toi, on lâche rien. C'est la lutte finale contre le patriarcat. Yes !